Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Florence Cohen sur RTL.
Avec ce soir autour de la table Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro, bonsoir.
Bonsoir Florence.
Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi qu'Isabelle de Gomain, journaliste à La Croix, bonsoir à vous.
Bonsoir.
La polémique sur la baisse des aides personnalisées au logement ne désenfle pas. Et c'est une députée En Marche qui jette de l'huile sur le feu. Écoutez Claire Petit, interrogée par le Huffington Post. Elle demande aux jeunes d'arrêter de pleurer.
5 euros, c'est beaucoup, mais c'est où ça où on augmente les impôts? Un étudiant qui touche l'APL touche aussi une bourse, normalement. Et c'est très bien, c'est très très bien. Simplement, voilà. C'est quand même aussi avec nos impôts, hein, faut quand même pas l'oublier. Donc, il y a les transports moins chers, il y a la carte d'étudiant, il y a l'APL, il y a les bourses. Ça ne suffit pas, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler encore, c'est vrai. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?
Alors, elle a raison, Claire Petit, on en fait trop pour dénoncer cette baisse de 5 euros par mois. Ou bien il faut quand même reprendre contact avec la réalité de ces Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous avez vu tiquer Isabelle de Gomain pendant la diffusion du Sonore ?
Oui, parce que c'est bête. Enfin, ça me rappelle quelqu'un, un certain Sarkozy, qui disait à 50 ans, si on n'a pas une Rolex,
on
a raté sa vie.
C'est Séguéla qui dit ça. C'est Séguéla.
Oui, alors au départ. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est bête parce que c'est. Mais finalement, c'est aussi bête que la mesure. Parce que cette mesure, elle est la même pour tous, 5 euros, quelle que soit la situation. Et là, elle dit une généralité, il ne faut jamais caricaturer. C'est vrai que 5 euros, pour certains, c'est beaucoup. Il y a un certain nombre d'associations spécialisées dans l'exclusion qui ont expliqué qu'il y a quand même des ménages à qui il reste justement 5 euros en fin de mois, une fois qu'ils ont tout payé. Donc voilà, 5 euros, c'est beaucoup pour certains, c'est peu pour d'autres. C'est vrai que le problème de ces allocations logement, c'est le problème des étudiants, et qu'on sait très bien, et aucun gouvernement avant n'a osé s'y attaquer, qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont encore en charge sur le foyer fiscal de leurs parents et qui touchent par ailleurs l'allocation logement. Et là, il y a un problème, effectivement. Alors, je crois que le précédent gouvernement avait quand même permis que les étudiants dont les parents touchaient à l'ISF ne touchent plus l'allocation, mais sinon, tous les autres la touchent. Et c'est vrai que c'est un peu idiot de donner la même chose à tous les étudiants, quelle que soit leur situation familiale, la situation de leurs parents, où qu'ils habitent d'ailleurs. Parce que si vos parents habitent dans la ville où vous faites vos études, c'est une chose. Si vous devez effectivement partir loin parce que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'université, c'est une autre chose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces aides au logement sont à la fois inefficaces, inégalitaires et trop importantes pour certains, pas assez pour d'autres. Le problème, c'est que cette mesure, qui est quand même une mesure vraiment de technocrate, quoi. Allez, on enlève 5 euros à tout le monde, est assez bête. Donc voilà, c'est bête de chaque côté. Après, je pense que le gouvernement a promis qu'il allait revoir le dispositif. Il aurait peut-être dû commencer par ça.
C'est ça, Guillaume Perrault, on a juste ressorti le rabot, là, en l'occurrence, hein.
Oui, mais moi je ne suis pas du tout choqué par les propos de la députée qu'on vient d'entendre.
Et pourquoi donc ?
Parce qu'elle dit ce qu'elle pense déjà. Ça mérite d'être salué parce que c'est très rare en politique. Et si tous les députés En Marche avaient la même franchise que cette dame, je serais beaucoup plus salué par Emmanuel Macron. Donc là, vraiment, j'applaudis. J'applaudis ce qui vient d'être dit et je refuse, comment dirais-je, c'est une tendance, si vous voulez, au misérabilisme autour de ce sujet. Elle ne parlait pas de tous les allocataires APL. Elle parlait uniquement des étudiants. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Des choses de bon sens. Elle a dit les étudiants ont droit en France à un soutien public beaucoup plus important que chez nos voisins. Elle a dit aussi, à 18 ans, 19 ans, il n'est pas bon d'avoir une mentalité de victime qui se présente, qui geint, et qui se présente comme ayant des droits, des créances envers la société. Ça me paraît du pur bon sens. Je ne vois pas ce que ça a de choquant chez nos voisins. Un tel rappel ne choquerait pas. Alors on va me dire, oui, mais regardez, c'est l'équivalent de vous ôter le pain de la bouche de ces malheureux étudiants pour ceux qui sont de conditions modestes. Elle a dit aussi qu'il y avait d'autres, que les bourses existaient sous critères de ressources ou de mérite. Il y a d'ailleurs plusieurs bourses qui existent et les collectivités locales souvent mettent des points d'honneur à créer des bourses. Vous avez certaines réductions. Elle a essayé, qui sont liées à votre qualité d'étudiant. Bref, elle a voulu sortir de la démagogie, tout simplement, pour donner une vision d'ensemble de la situation. Alors elle l'a fait, c'était pas toujours d'une parfaite rigueur dans les faits avancés. où c'était pas toujours, c'était un peu brut de décoffrage.
J'allais dire, c'était pas d'une parfaite délicatesse non plus.
Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas dire d'un côté, on est victime de la langue de bois, les politiques font de la langue de bois, et puis quand ils parlent franchement, s'indigner, se scandaliser.
C'est caricatural.
Et vous, Clément Viktorovitch, vous ont inspiré quoi ces propos ?
Moi, je suis consterné par les propos de Claireau Petit. J'aurais du mal à avoir même des mots suffisamment durs. On va commencer par ces mots précisément, parce que ça a un sens tout de même, les mots en politique. Vous avez raison, elles disent ce qu'elles pensent. Et moi, je trouve que c'est pas très élégant ce qu'elles pensent. Si à 18, 19, 20, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, le mot important dans la phrase, c'est pleurer. Il y a un mépris paternaliste dans ce terme-là. Il y a une infantilisation de personnes qui sont des citoyens à qui on doit le respect, qui, moi, me choque profondément, issu d'une élue de la nation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une ignorance absolue de la situation dans laquelle vivent ces personnes. Il faut quand même rappeler que 60% des bénéficiaires des APL vivent sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté. Et pour ces gens-là précisément, ça n'est pas rien. Donc elle ne fait qu'illustrer quelque chose qui est criant, c'est qu'elle n'a aucune compréhension de ce que vivent ses concitoyens. Qu'elle est dans une déconnexion absolue. Et quand on rappelle que cette femme-là est députée, qu'elle est payée plus de 5000 euros par mois d'indemnité, que ses frais sont couverts, on ne peut manquer d'être choqué. Bon, donc ça c'est simplement pour les mots. Et puis alors si on descend dans le fond de l'argumentation, alors là c'est un abîme de bêtises ce qu'elle nous déploie. Elle nous explique soit c'est ça, soit on augmente les impôts. Mais précisément, les bénéficiaires des APL, précisément parce qu'ils sont pauvres, ne payent pas d'impôts. Donc leur baisser leur part d'allocation, c'est exactement leur augmenter les impôts. Et puis on fait comme si, alors ça c'est formidable, on fait comme si brutalement, là tout d'un coup, il y a 100 millions d'euros à trouver. Donc ma bonne dame, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein, ça va messieurs, dames. Donc ma bonne dame, mon bon monsieur, il faut bien les trouver ces 100 millions d'euros. Et donc soit c'est ça, soit on augmente les impôts. Mais ils sont en train de les baisser les impôts, ces braves gens du gouvernement, et pas pour n'importe qui, pour la frange la plus riche de notre population, puisqu'ils baissent l'ISF. Donc il y a là-dedans tout ce que moi je considère de choquant. Ça a pour moi un mérite, et un grand mérite, et là je vous rejoins effectivement, c'est que au moins ça jette un voile d'une très grande clarté sur l'esprit de cette réforme, et je pense que ça a le mérite de clarifier le débat public.
Je voudrais répondre, si vous le permettez.
Alors vous
le
ferez tous les deux, allez-y Guillaume, en premier, ensuite Isabelle.
Là, on a vraiment un grand problème de notre époque, qui est que quand on porte une critique franche, comme l'a dit cette députée, aussitôt, il y a un concours de victimisation, et on nous dit... On nous manque de respect. Et le grand mot à la mode, c'est ça. Ce n'est pas digne, c'est un manque de respect, c'est un manque de dignité à notre égard, et on joue les outragés. Mais avec ça, monsieur, on ne peut plus rien dire. Et on ne peut plus rien faire. Et il n'y a rien de plus facile que de prendre la pose de l'outragé. Et c'est une tendance très française de la part de n'importe quelle catégorie ou de n'importe quel orateur, quand il a un dossier à défendre dans l'espace public en France. Ne cédons pas à cette facilité.
Moi, je crois que quand les propos sont outrageux, il y a tout lieu d'être outragé.
Isabelle de Gaumont.
Oui, peut-être on pourrait sortir des grands mots. Je trouve qu'il y a deux choses. Il y a les ménages modestes qui, effectivement, touchent les APL, et cela, pour certains d'entre eux, ça va être compliqué, les 5 euros. C'est vrai qu'il y a un problème étudiant, c'est vrai que ce problème, personne ne s'y est attaqué sérieusement depuis des années, et on le dit depuis très longtemps. D'ailleurs, ça a contribué à augmenter les chambres de bonne, les petits loyers dans les villes tendues comme Paris, Lyon, Nantes, etc. Parce que ces étudiants, quelle que soit leur situation familiale, touchent l'APL. Bon, bah là, c'est un vrai problème. Autant centrer ces aides sur les étudiants qui en ont besoin. Et par contre, on connaît tous dans nos familles des étudiants qui sont aidés et qui pourraient très bien se sortir sans être aidés.
Et ben voilà, précisément, vous avez peut-être entendu le ministre de la Cohésion des Territoires ce matin, Jacques Mézard, sur RTL, qui disait, voilà, on ne va pas s'en tenir là, on va faire une réforme à l'automne, réforme de fond, il serait quand même temps de la faire, justement, Clément Viktorovitch.
Ah mais là-dessus, moi, je suis parfaitement d'accord. Les aides pour le logement, parce que dans les aides pour le logement, il n'y a pas que les APL, il faut être précis. Dans les aides pour le logement, c'était 18 milliards d'euros en 2016. C'est considérable. En 2017, on prévoit, parce qu'on n'a pas le chiffre, mais on prévoit que ça atteindra probablement 18,5 milliards d'euros. Donc, effectivement, c'est beaucoup d'argent qui pèse sur les dépenses publiques, et il semble que, dans certains cas, il y a un effet pervers, c'est que l'existence des APL fait que les loueurs augmentent leur loyer. Bon, donc ça a été documenté. Maintenant,
précision chiffrée, on dit 1 euro d'augmentation d'APL, c'est 78 centimes d'augmentation du loyer à peu près.
Voilà, alors maintenant, là-dessus, il faut préciser plusieurs choses. La première, c'est que là-dessus, sur l'effet inflationniste, les études sont contradictoires. Il y a plusieurs études qui précisément montrent que c'est pas si simple. Ensuite, raboter brutalement de 5 euros les aides pour le logement n'aura absolument aucun effet sur l'inflation, parce que pour qu'il y ait un effet sur l'inflation des loyers, il faudrait s'attaquer directement à l'architecture du dispositif. Donc, si M. Mézard veut s'y atteler, eh bien, parfait, effectivement, c'est un dossier qu'il y a traité, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et il y a plein de solutions, il y a plein de pistes qui ont été évoquées. La première, c'est quand même le plafonnement des loyers. Mm-hmm. Parce que si le problème, c'est que les loyers augmentent, au bout d'un moment, on peut les plafonner. Et puis, sur la réforme du dispositif, il y a plein de choses à faire. Économiser sur les frais de gestion. Les frais de gestion des APL, c'est 800 à 900 millions d'euros par an. C'est considérable parce que le dispositif est complexe. Donc, il y a des choses à faire, mais pas ça. S'il vous plaît, pas ça.
Réforme de fond, Guillaume mais Perrault.
C'est séduisant, mais ça n'engage pas à grand-chose tant qu'on se contente de dire réforme de fond. Est-ce que ça veut dire faire passer les APL sous conditions de ressources pour les étudiants ? J'y suis hostile. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la logique vers laquelle on tend, c'est tout basculer en prestations sociales sous conditions de ressources. Il y a aussi un caractère, un principe important qui est l'universalité de certaines prestations sociales et ça serait un modèle socialement intenable si tout passait sous conditions de ressources.
Bon, terminé pour ce sujet-là, on s'en tient là. On enchaîne sur le deuxième sujet, s'il vous plaît, toujours avec vous trois, Isabelle de Gomain, Guillaume Perrault et Clément Viktorovitch. Le dialogue se tend sérieusement entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme du Code du travail qui, vous le savez, doit se faire par ordonnance. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, s'opposera à une simplification bête et méchante. Il l'a redit tout à l'heure sur RTL Soir à 18h20. Et son homologue de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, prévient que ses baskets sont prêtes pour manifester à nouveau comme contre la loi El Khomri. L'un des principaux points de tension, mais il y en a d'autres, le plafonnement des indemnités prud'homales. Il va pouvoir tenir le gouvernement devant cette grogne qui monte ou bien il va devoir assouplir son projet, Isabelle de Gomain?
C'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas le projet. Il faut quand même déjà...
On en connaît la grosse
On ne connaît pas encore justement le plafonnement des indemnités prud'homales.
Non, effectivement,
c'est ça qui va fâcher ou pas. Et de même qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on décentralise dans les entreprises les accords. Donc voilà. Après, c'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, tout le monde regardait FO. C'était vraiment le point focal parce que on se souvient que pour la loi El Khomri, c'est vraiment eux qui ont déclenché finalement le mécontentement, puisque de toute façon la CGT allait contre. Là, pour l'instant, il semblait plutôt de bonne composition. Donc le fait qu'ils commencent à chausser ses baskets, c'est pas de fait un très bon signe. Mais je crois qu'il faut quand même attendre septembre et attendre d'avoir le texte même du ministère.
Oui, en l'occurrence, Laurent Berger de la CFDT disait pas autre chose tout à l'heure, Clément Victor. Sur RTL. Néanmoins, il infléchit son discours. Il dit maintenant, si ça dépasse la ligne rouge, je m'opposerai.
Oui, moi, je ne sais pas si le dialogue se tend entre le gouvernement et les syndicats. Moi, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, puisque les syndicats ont été reçus à Matignon, ils ont exprimé, d'ailleurs pas simplement les syndicats de salariés, puisque c'est le cas aussi de la CPME, les syndicats expriment l'état d'incertitude, les syndicats du patronat, voilà, ils expriment l'état d'incertitude dans lequel ils sont plongés. Les expressions que moi j'ai retenues, c'est surtout « nous sommes à la croisée des chemins », c'est Jean-Claude Mailly, et puis le président de la CPME qui disait « nous sommes à un point de bascule ». Donc en fait, au fond, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « nous avons été entendu. Nous sortons de plusieurs heures chacun de réunion avec Madame Pénicaud et
la
ministre du Travail. Et nous n'avons, à l'heure actuelle, aucune idée de ce que sera précisément la réforme. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça relève de la conception du dialogue social par Emmanuel Macron. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Il y a plusieurs manières de faire du dialogue social. Il y en a trois, pour simplifier. La première, c'est la consultation. Le gouvernement écoute, dit oui, et puis finalement, fait ce qu'il a envie. La deuxième, c'est la concertation. On écoute, on s'inspire des réformes et des propositions, et puis on fait un peu une mix personnel. Et puis la troisième, c'est la négociation, c'est-à-dire une véritable co-construction de la réforme. Et là, dans cette ignorance que confessent les syndicats eux-mêmes de « on ne sait pas ce que sera la réforme », ça révèle la conception du dialogue social par Emmanuel Macron. Ça n'est pas une négociation, ils n'ont pas co-construit la réforme. Le gouvernement a écouté, on ne sait pas trop avec quel degré d'attention les propositions des syndicats, et aujourd'hui, ils sont, comme nous, dans la certitude, on attend de savoir à quelle sauce nous allons être mangés.
Faites-vous la même analyse, Guillaume Perrault ?
Donc, il y a un certain flou sur le degré de d'audace du gouvernement dans ses ordonnances, c'est certain, puisque c'est par nature une espèce de troc entre partenaires sociaux et État, et donc tout le monde n'a pas intérêt à abattre d'emblée toutes ses cartes et à dire ses arrière-pensées tout de suite. Je crois que pour ce qui est de l'opinion, il y a une inquiétude, enfin une interrogation très réelle sur la libéralisation du Code du travail, qui est que est-ce que oui ou non donner davantage de liberté aux entrepreneurs revient à ouvrir la voie à l'arbitraire d'un rapport de force. En fait, c'est ça l'inquiétude que se posent les gens. C'est est-ce que si on transfère à l'échelon des entreprises l'essentiel des négociations, ça va entraîner, ça va tout soumettre à des rapports de force. Donc, vu l'état du marché du travail, vu la faible représentation des syndicats dans les PME, un rapport de force très défavorable aux salariés. Je comprends très bien cette interrogation, dans une certaine mesure, je la partage, je ne prétends pas avoir la réponse. Mais je fais deux observations. D'abord, le droit du travail est extrêmement rigide, corseté, avec une hiérarchie des normes, et de toute façon, il y a des règles dites d'ordre public social qui sont fixées par la loi et qui resteront intangibles. Ça, c'est un premier verrou. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est les gens qui ont beaucoup de pouvoir, mais dont on ne parle jamais, parce qu'ils ne sont pas connus de l'opinion, sont les magistrats de la Cour de cassation. Il y a une chambre sociale à la Cour de cassation, et en dernier ressort, ça sera elle qui interprétera dans le détail l'application des réformes qui vont être concoctées pendant l'été. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le genre de question qui tranche quotidiennement. Est-ce que le temps d'habillage ou de déshabillage des ouvriers dans certaines industries doit être inclus, pris en compte dans le temps de travail ou non ? Là-dessus, la jurisprudence a changé d'avis. Donc, au cours du temps. Donc, vous avez en fait certaines décisions qui ne relèveront pas de toute façon de ces ordonnances et qui seront peut-être en définitive aussi importantes.
Isabelle de Gomain, vous voulez compléter ?
Oui, je crois que ce qui est en jeu aussi, c'est à quel niveau, puisqu'on parle de dialogue social, va se faire dans l'avenir le dialogue social en France. C'est-à-dire, est-ce que ce sera vraiment au niveau des branches, au niveau des entreprises ou encore comme aujourd'hui au niveau national ? Et là, c'est quand même un enjeu important. Est-ce qu'on va se rapprocher du modèle allemand dont on parle beaucoup ? Est-ce qu'on va rester sur un modèle beaucoup plus centralisé ? Et je pense que c'est aussi un des enjeux de la loi.
Ça fait partie effectivement des enjeux cruciaux vécus par les syndicats. Troisième sujet de cette émission ce soir. Emmanuel Macron a réuni cet après-midi les deux frères ennemis de la Libye, le Premier ministre soutenu par la communauté internationale et son rival. Le but, leur faire signer une déclaration commune, alors pas pour régler définitivement la situation bien sûr, mais au moins pour afficher de bonnes intentions. Résultat, avant même le début de la rencontre, l'Élysée diffuse un document de travail qui évoque un cessez-le-feu, hormis pour les opérations anti-djihadistes, et des élections dès que possible, précision après la rencontre, un processus électoral sans doute qui aboutit au printemps. Bon, c'était bien le moins que les deux parties puissent faire. À quoi ça a servi tout ça ? C'est juste de l'affichage, de la communication pour réaffirmer la stature internationale d'Emmanuel Macron ou vous en tirez quelque chose sur le fond et sur le processus, Clément Viktorovitch ?
Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de politique internationale, donc je vais essayer d'être le plus bref possible pour dire le moins de bêtises possible. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que ça n'est pas rien malgré tout, ce qui s'est passé lors de cette réunion. Il faut rappeler que le 2 mai dernier, à Abu Dhabi, les deux acteurs majeurs de la politique syrienne s'étaient déjà rencontrés et il n'en était rien ressorti, c'est-à-dire qu'il y avait eu deux déclarations différentes. Ils n'avaient pas pu s'accorder sur ne serait-ce qu'une déclaration commune. Donc, ce sera le cas, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et ça n'est pas rien en politique internationale, ça n'est pas rien en négociation, ça signe de manière symbolique, mais les symboles c'est important, ça signe la reprise du dialogue, le fait qu'on arrive au moins à s'entendre sur une déclaration commune, et puis il y a eu quand même quelques concessions de part et d'autre, notamment effectivement le fait de s'engager dans un processus électoral qui pourrait aboutir en 2018. Donc on est dans finalement la reprise d'une dynamique de négociation avec quelques concessions mutuelles, avec deux acteurs qui arrivent à parler d'une même voix. Il faut attendre maintenant pour savoir si c'est la première étape vers un processus de pacification.
C'est rien ou ça n'est pas rien ce qui s'est passé aujourd'hui, Guillaume Perrault ?
Non, ce n'est pas rien. À ma connaissance, c'est la première fois que le président de la République accueille en France et s'entretient successivement avec les deux belligérants. Hollande avait reçu le Premier ministre en titre, mais seulement lui, il y a à peu près 9 mois. Il y a une singularité dans la position française, d'après ce que j'ai compris par rapport aux Américains et aux Britanniques, c'est que les Français, à l'initiative de Le Drian, donc des services qui lui suggéraient ce qu'il fallait faire pour lutter contre le terrorisme de l'État islamique, les Français ont été plus bienveillants que les Anglo-Saxons envers le chef de guerre qui s'est implanté en Cyrénaïque dans l'est du pays. Qui a été, vous savez, vous vous souvenez, il y a eu un accident qui a révélé qu'il y avait des militaires français qui étaient engagés secrètement dans cette région, peut-être pas aux côtés, mais en tout cas en coordination avec les forces de ce chef de guerre. Donc la France a une position un peu à part, en tout cas elle l'avait il y a 9 mois. Sur le fond, évidemment, Macron a raison de s'impliquer sur un sujet qui est vital pour la France, à la fois à cause de la crise migratoire qui concerne au premier chef la Libye, évidemment pour l'État islamique et
on subit une fois encore les conséquences de la chute du tyran Kadhafi, c'est cet éternel feuilleton qui continue.
Et vous, Isabelle de Gaumont, votre analyse ?
Bah, c'est intéressant parce qu'on voit que Macron sort un peu du tout ou rien de son prédécesseur. C'est-à-dire que Haftar, on ne pouvait pas parler avec lui. Hein. C'était le grand méchant loup, voilà, l'infréquentable.
C'était le rival du reste du pays.
Voilà, c'est ça. Donc là, il est sorti un peu de cette posture et ça me paraît plutôt intéressant. En tout cas, de toute façon, l'autre posture ne donnait rien. Et en plus, il faut quand même rappeler que la Libye est comme ça depuis que les Anglais et les Français sont intervenus. Donc c'est vrai qu'on n'est pas non plus totalement neutre dans cette histoire. Donc voilà, on va voir si ça va donner quelque chose. Je pense que c'est intéressant, mais il faut faire attention parce qu'effectivement, Haftar, c'est quand même quelqu'un redoutable, qui connaît très très bien le terrain, qui aujourd'hui est en train de passer des alliances avec les salafistes. Donc voilà, c'est quand même un sacré roublard. Il faut voir jusqu'où est-ce qu'on peut lui faire confiance et jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur lui pour trouver une solution de paix. Là, l'accord, franchement, pour l'instant, c'est rien. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va peut-être avoir des élections, etc., au printemps prochain, on a encore le temps de voir les choses. Mais c'est vrai qu'il y a un accord qui a eu une signature commune. Voilà, c'est un petit pas. C'est un petit peu aussi dans cette direction qui va pour la Syrie, Emmanuel Macron. Donc c'est voilà, une politique internationale peut-être plus pragmatique que son prédécesseur, sans doute parce qu'il n'y a pas le même passif, pour essayer finalement de trouver des solutions avec les interlocuteurs qu'on a et pas ceux qu'on choisit.
Donc c'est un point de plus pour Emmanuel Macron, Clément Viktorovitch. C'est une pièce du puzzle de son image qui s'est encore ajoutée aujourd'hui.
Oui, c'est sûr, en tout cas qu'en termes de communication, ça renforce son image d'un président qui s'implique beaucoup à l'international. Et il a parié là-dessus hein, depuis son élection pour confirmer son image de président, ce qu'en rhétorique on appelle l'éthos. L'éthos, c'est l'image qu'un orateur renvoie de lui-même dans son discours. C'est l'un des biens les plus précieux de tout homme politique. Et Emmanuel Macron, c'est le trésor de guerre qu'il est en train de constituer via les réunions qu'il a entretenues avec à la fois Poutine et Trump. Et puis là, c'est une pierre de plus dans ce jardin, je crois, effectivement.
Vrai sur ce point, Guillaume Perrault ?
Oui, ça sera certainement à saluer si ça débouche sur quelque chose de concret. Pour le moment, en effet, on ne peut pas l'affirmer. Ce qui me frappe, c'est que ces deux belligérants en Libye contrôlent très schématiquement une des deux grandes régions qui, historiquement, ont composé la Libye et qui ont toujours été antagonistes. La région de Tripoli pour le Premier ministre en titre, et puis la Cyrénaïque, plus proche de l'Égypte. Et d'ailleurs, ce chef de guerre est soutenu par l'Égypte et les Russes. Donc, c'est à prendre en compte, et de toute évidence, l'heure est aujourd'hui à la Realpolitik. Je m'en réjouis.
Eh bien, nous la suivrons, la Realpolitik. Dans un petit instant, on va passer à un sujet français, pour le coup. On va partir des chiffres de la sécurité routière sur les vélos. Ne quittez pas.
On refait le monde dans RTL Soir
avec Florence Cohen.
Et ce soir, Clément Viktorovitch, Guillaume Perrault et Isabelle de Gaumont, il n'y a jamais eu autant de morts à vélo sur nos routes. Le nombre de cyclistes tués a augmenté de 22% par rapport à l'année 2010. Alors vous allez me dire, il y a aussi beaucoup plus de vélos sur nos routes dans l'absolu, d'accord. On peut se renvoyer la balle, ce sont les automobilistes qui sont inciviques, les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Bon, au-delà de tout ça, est-ce qu'il faudrait former les conducteurs, débutants ou pas, à la conduite d'un vélo, Guillaume Perrault ?
Vous savez, on leur demande déjà tellement de choses. Enfin, je veux dire, on fait peser tellement d'attentes sur cette formation des conducteurs que je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Vous avez vous-même rappelé, Florence, que s'il y a plus d'accidents, c'est parce qu'il y a plus de deux roues. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a l'incivisme classique, bien connu des Français au volant, c'est sûr. Il y a aussi le sentiment de puissance de certains cyclistes, parce que les deux roues ont été encouragées dans les grandes agglomérations en France depuis une quinzaine d'années, à l'image de Paris, qui a fait une politique avec toute une doctrine, avec même une rhétorique, un jargon qui m'énervait beaucoup, sur la nouvelle répartition solidaire de la voirie. Et alors, on a tracé des lignes qu'il faut déceler, il faut faire très attention de savoir, pour savoir, il faut être vraiment en alerte en permanence quand on sort de chez soi aujourd'hui à Paris pour savoir si on est dans l'endroit qui vous est assigné et il faut pas se tromper. J'ajoute que c'est dangereux, tout particulièrement dans certains boulevards bien connus. Saint-Marcel, par exemple, à côté de la gare d'Austerlitz, c'est vraiment extrêmement dangereux à cause de la façon dont ça
est.
Voilà. Et pour ceux qui arrivent à Paris, dans cette gare d'Austerlitz, je dis attention, chers auditeurs d'RTL, si vous arrivez à gare d'Austerlitz, soyez extrêmement prudents en sortant, regardez à droite et à gauche 3 fois de suite avant de vous lancer. ou prenez la bouche de métro tout de suite. Et on peut ajouter à ça que le piéton lui-même se sent en insécurité à Paris. J'ai même été témoin d'une scène assez cocasse, enfin, qui aurait été cocasse s'il n'y avait pas eu un incident. C'est que autour de Montparnasse, j'ai vu un vélo rentrer dans renverser un piéton, une dame qui s'est retrouvée par terre, qui évidemment l'a apostrophée assez rudement, et le cycliste lui a dit « Mais c'est votre faute, vous avez bougé !»
Pas mal.
Vous avez bougé. Ouais. Elle avait bougé. Elle n'était pas dans une voie réservée aux cyclistes. Elle était dans son couloir. Mmh. Elle avait en effet bougé. Et il est recommandé aujourd'hui de ne pas bouger brusquement si vous êtes piéton à Paris. Mmh. Donc, je crois que c'est les conséquences. Il y a une espèce de déstructuration de la voirie à cause de cette mode des deux roues, de cette politique en faveur des deux roues inconsidérée à mes yeux.
Alors, si je vous pose la question de la formation des conducteurs jeunes ou pas à la conduite d'un vélo, c'est parce que c'est la revendication d'une association pro-vélo, justement, Isabelle de Gomain.
Non, mais c'est sûr qu'il faut que les voitures apprennent. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On voit bien dans les villes nordiques que ça se fait beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus l'habitude d'avoir des vélos dans la ville. Mais je pense qu'il est important que les conducteurs de voitures apprennent à respecter et les piétons, parce que franchement, déjà, ils ne les respectent pas beaucoup, en France en tout cas, et aujourd'hui les vélos. Alors, ce qui se passe aussi, pour justement vos auditeurs qui ne sont pas à Paris, il y a quand même des grandes villes, quand on y va, on se rend compte qu'il y a aussi des vraies pistes cyclables. À Paris, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez à Nantes ou à Grenoble, vous avez là vraiment des voies qui sont séparées, donc c'est beaucoup moins dangereux. Et de toute façon, il faut bien se dire qu'on ne pourra pas tous avoir la même place. Les rues, elles sont étroites, surtout dans les centres historiques, donc il faut moins de voitures. Et ça, de fait, ça fait râler beaucoup de gens à Paris, mais je pense que c'est la bonne voie. Il faut de toute façon moins de voitures à Paris, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Si vous avez les vélos, en plus, vous avez maintenant les trottinettes, les piétons, etc. Mais c'est vrai que sur Paris, ils ont un petit peu... souvent, ils nous mentent un peu, c'est-à-dire qu'ils nous font croire que c'est des pistes cyclables, ouais. Ce qui n'est pas des pistes cyclables. La vraie piste cyclable, elle est quand même séparée de là où la voiture ou le bus, parce que en fait les plus dangereux c'est les bus où le bus peut aller.
Voilà, piste cyclable séparée, ce qui à Paris n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Clément Viktorovitch ?
Moi, je suis plutôt enthousiaste de l'augmentation du nombre de vélos qui participent à la réduction de gaz à effet de serre et ma foi, c'est quand même et de CO2 et c'est quand même l'objectif de Paris. Trois choses. D'abord, l'effet, effectivement, plus 22% de morts à vélo depuis 2010, mais depuis 15 ans. Donc un peu plus longtemps, mais depuis 15 ans, le nombre de vélos a par exemple doublé à Paris. Donc on s'émeut de ce chiffre. Moi, j'aimerais qu'on me dise, je ne sais pas, hein, j'aimerais qu'on me dise s'il est statistiquement significatif ou pas. Mmh. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, effectivement, la proposition qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est le fait d'imposer aux conducteurs sur leurs 20 heures de conduite obligatoire, quand ils apprennent, le fait d'imposer une heure sur un vélo pour qu'ils se rendent compte de ce que ça fait que d'être un vélo confronté aux voitures. Je vous confesse être légèrement dubitatif sur cette proposition pour une raison simple, c'est que en toute hypothèse, les nouveaux conducteurs sont principalement des jeunes et en toute hypothèse, s'ils passent leur permis en ville, c'est quand même ça la situation qu'on cible. A priori, ils ont quand même passé un peu de temps sur un vélo. Il y a assez peu de jeunes, je crois, aujourd'hui, de 16 à 18 ans, qui n'ont pas du tout circulé à vélo dans Paris. Donc moi, je me pose la question de l'impact que ça aurait. Troisième remarque, je crois que cette proposition-là, elle éviterait de s'atteler aux vrais problèmes parce qu'il y en a. Il y a des vrais problèmes. Effectivement, aménager de véritables pistes cyclables sécurisées. Alors ça coûte un peu plus cher, ça c'est vrai, mais ça a une utilité. Et puis il y a une autre question qui se pose, c'est que finalement, quand on parle de mort à vélo en ville, ça pose aussi la question des livreurs, notamment des livreurs qui travaillent pour des applications dites ubérisées, qui, par leurs conditions de rémunération, qui sont rémunérées à la course, avec très faiblement pour chaque course, sont incités à faire leurs courses le plus vite possible, et qui donc, c'est eux qui prennent des risques complètement fous pour faire le plus de courses possible, pour faire le plus de courses possible à l'heure. Donc du coup, là, il y a aussi la question de ces applications-là qui incitent certains jeunes à avoir une conduite qui est extrêmement dangereuse.
Donc une notion économique là-dedans aussi. Guillaume Perrault, je me posais la question en vous écoutant, êtes-vous anti-vélo ?
En tout cas, je suis anti-vélo à Paris, c'est un art tout d'exécution, et j'affirme que la manière dont ça a été conduit à Paris heurte le bon sens. Alors ça, vraiment, je le maintiens, et le modeste piéton que je suis se sent dans un état de vulnérabilité
permanent dès qu'il sort de chez lui. C'est une espèce de défi. On se sent comme un Indiana Jones qui va devoir, comme ça, exposer sa vie dès qu'on met le pied dehors. Vous m'avez tendu la perche, je la saisis, Florence.
Ça, mon ami,
je la saisis.
Je dois reconnaître que moi aussi, je me suis pris un cycliste un jour en
voilà. Ah non, mais vous savez que parfois, on a des envies, je confesse, de quasi-violence pour voir les attitudes de seigneurs désinvoltes de certains quidam qui sont tout fiers d'avoir leur vélo et qui vous toisent.
J'aime quand vous dites ce que vous pensez. Isabelle de Gomain.
Il y a quelque chose qui me choque beaucoup plus que le vélo, c'est les trottinettes.
Ouais.
J'ai parlé tout à l'heure, donc c'est vrai, parce que les trottinettes, c'est sur les trottoirs, c'est la grande mode, et alors c'est les parents qui emmènent leurs enfants en trottinette à l'école, et alors ils sont ravis parce qu'ils ont leur chatte petite tête blonde devant eux qui fait la trottinette, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont vraiment des bolides dangereux sur les trottoirs. Donc à mon avis, le vrai ennemi du piéton, ce n'est pas le vélo, mais c'est la trottinette.
Chacun est dans sa bulle.
Nous
Chacun
avons
est dans
donc
sa bulle.
La ligue anti-vélo et trottinette qui est née ce soir sur RTL, on vous donne des nouvelles de l'existence de cette association, c'est bien évidemment une plaisanterie. On enchaîne sur le cinquième et dernier sujet de ce soir. L'État condamné pour non-remplacement de professeurs absents dans un collège de Colombes dans les Hauts-de-Seine. C'est une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les parents d'un élève de 3e ont porté plainte. 96 heures de cours non assurées dans plusieurs matières au cours d'une seule année scolaire. 96 euros de dommages et intérêts à verser par l'État, 1 euro par heure. La somme est symbolique, évidemment, la condamnation aussi. Mais les plaignants disent, si des milliers de parents faisaient comme nous, ça pourrait avoir un impact. L'État est-il trop léger dans le remplacement des profs absents, avec un préjudice, un de plus, peut-être, pour l'élève, Clément Viktorovitch ?
La question, c'est pas simplement le remplacement des professeurs absents. Oui, on peut poser la question en disant que l'État est trop léger, mais la question, c'est vraiment celle des ressources de l'éducation, les ressources de l'éducation nationale et du nombre de professeurs. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est les ressources de l'éducation nationale, qui, contrairement à ce que tout le monde dit, où on explique que c'est un budget inflationniste et que c'est terrible, c'est la part. Des dépenses d'éducation nationale rapportées au PIB est stable depuis les années 80. Par ailleurs, elle est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, contrairement à ce qu'on entend partout, la France n'est pas du tout un pays qui est particulièrement dispendieux sur l'éducation nationale. On peut même ajouter que la France est un des rares pays de l'OCDE où la scolarité est de droit dès 3 ans. Et donc, si on sort de cela les dépenses de la maternelle, eh bien, la France dépense plutôt moins d'argent pour son éducation nationale que le reste des pays de l'OCDE. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un vrai problème aujourd'hui. C'est pas simplement le recrutement des professeurs, parce qu'en fait, sous le quinquennat Hollande, on a ouvert un très grand nombre de postes au concours. Le vrai problème, c'est que ces postes ne sont pas pourvus. Aujourd'hui, il y a 12% des postes qui étaient ouverts au CAPES. Le CAPES, c'est le concours qui permet de recruter les enseignants du secondaire, notamment au collège-lycée. 12% des postes qui étaient ouverts au CAPES en 2017 qui n'ont pas été pourvus, parce qu'on n'a pas suffisamment de candidats. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est les conditions d'enseignement en France, dans l'éducation nationale. Les jeunes se détournent de l'enseignement, particulièrement dans certaines filières, notamment les mathématiques et les langues, qui sont les filières dans lesquelles on peut, quand on sort de la fac, trouver aisément un emploi ailleurs. Aujourd'hui, on préfère travailler n'importe où, plutôt qu'à l'éducation nationale. C'est de cela qu'il faudrait reparler.
Voilà pourquoi on n'arrive pas à remplacer les profs absents, Isabelle de Gomain.
Oui, non, moi je ne suis pas du tout d'accord, parce que là, il y a quand même un vrai problème qui est l'absentéisme des profs, qui est un énorme problème, parce que on a calculé que si on cumulait pour un enfant le nombre de jours où ses professeurs sont absents, ça ferait une année scolaire dans toute sa scolarité. Donc c'est énorme. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Pourquoi ? Parce qu'il y a des syndicats d'enseignants qui sont, comme d'habitude, contre toute souplesse. Parce qu'on peut avoir des solutions un peu plus souples. Des enseignants qui acceptent de remplacer sur leur matière un autre enseignant qui est absent et puis qui ensuite récupère, etc. Mais dès qu'on parle de ça, ils disent que c'est pas dans leur statut, donc on n'avance pas. Et moi, je suis vraiment ravie de ce jugement, parce que je pense que c'est une maladie de l'enseignement national, de l'éducation nationale, pardon. Tous les parents le savent qui ont affaire à l'enseignement public, c'est qu'il y a un vrai problème d'absentéisme. Déjà, il y a un problème d'absentéisme, c'est les enseignants sont quand même des gens qui ont un taux d'absentéisme plus fort que dans le privé. Pourquoi ? Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a un problème de non-remplacement. Donc, il y a des solutions qui existent, faire appel à des retraités, faire appel aux autres profs, s'organiser au sein de l'établissement pour avoir un peu plus de souplesse sur les horaires, mais on n'arrive jamais à avancer là-dessus. Et qui est-ce qui trinque ? C'est les gamins.
On va vous demander d'arbitrer entre les deux, Guillaume Perrault.
Je penche vers la croix.
C'est curieux.
Très fortement, très étonnamment.
Sur ce sujet, vous m'avez presque mis chez le consoeur au chômage technique, là, donc c'est tout à fait déloyal.
Parlez quand même.
Alors, j'ajouterai juste quelques remarques complémentaires, pas du tout contradictoires, hein, complémentaires. J'ai appris, en travaillant ce sujet, qu'un proviseur n'était tenu de lancer une procédure pour remplacer un professeur que si celui-ci était absent 15 jours.
Déjà.
Voilà. En deçà, il est invité à ne pas le signaler à l'éducation nationale et il doit se débrouiller comme il peut. Donc ça, c'est déjà une première remarque. Le sujet est tellement difficile pour l'éducation nationale à cause des rigidités statutaires qui sont vraiment énormes. Et en effet, du poids des syndicats, surtout de leur état d'esprit, plus que du poids des syndicats du secondaire, qu'est-ce qui se passe ? Un proviseur concentre les profs sûrs et bons au lycée. Donc l'essentiel de ces problèmes d'absentéisme se concentre au collège. C'était le cas d'ailleurs pour les parents qui ont saisi la justice. C'était des cours dans quatre matières différentes où il y avait des absences. Français, mathématiques, histoire, géo, espagnol, d'après ce qu'a dit Radio Bleu qui a, je crois, sorti l'information.
Exact.
Par ailleurs, il y a une volonté de parer au plus pressé ce qui peut se comprendre, c'est-à-dire les congés longue durée, ouais. Enfin les absences longue durée, ce qui fait que c'est le tonneau des Danaïdes, et comme il y a peu de professeurs disponibles, c'est vrai qu'il y a en effet des postes offerts au concours qui ne sont pas pourvus, ou parce que aussi, soit parce qu'il n'y a pas assez de candidats, soit parce qu'il n'y a pas assez de candidats compétents, et les jurys disent, ben non, là, ce n'est pas possible, ils n'ont pas le niveau, donc on ne les prend pas, il y a aussi ça. J'ai un vieux souvenir qui me revient brutalement, c'est qu'au XIXe siècle, les agrégés qui commençaient dans la carrière, ils n'avaient pas de poste, on les appelait les agrégés volants. Les agrégés volants faisaient les remplacements. Et Michelet, un de nos grands historiens, quand il a commencé sa carrière, il faisait des remplacements. On l'appelait agrégé volant. Et ça a disparu, c'est peut-être une erreur, parce qu'on a voulu tout de suite donner plus de droits, un statut plus carré et confortable pour les professeurs titulaires. Et du coup, bah voilà, c'est rigide.
Ouais. Vous les avez écoutés tous les deux très attentivement, Clément Viktorovitch.
Oui, très attentivement. Déjà, sur ces fameux agrégés volants, ça existe encore aujourd'hui des postes de professeurs non titulaires qui sont remplaçants. Le problème, c'est que puisqu'on a une pénurie d'enseignants, à la fois dans le primaire et dans le secondaire, précisément, les enseignants qui devraient être dévolus au remplacement sont nommé sur des postes parce qu'il n'y a pas assez de postes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'entends une petite musique sur les enseignants absentéistes, fainéants, ils ont tant de vacances. Alors déjà, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, si l'enseignement, c'est une telle panacée, pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter des enseignants ? C'est peut-être parce que c'est pas tant que ça, la panacée, que les conditions d'emploi sont pas si bons que ça. Ensuite, les enseignants plus absentéistes que dans le privé, moi, je déteste ce mot d'absentéisme, parce que généralement, quand on est dans l'éducation nationale, on ne s'absente pas, on n'a pas le droit de ne pas venir quand bon nous semble. C'est des arrêts maladie. Bon. Alors, moi, soit on est capable de montrer que ce sont des arrêts maladie de complaisance, soit il faut peut-être commencer à se dire que peut-être que l'enseignement, eh bien oui, c'est un métier extrêmement difficile, extrêmement éprouvant, et c'est peut-être pour ça, précisément, qu'on a du mal à trouver des candidats. Donc moi, j'aimerais poser juste une question.
L'un n'empêche pas l'autre. Les deux facteurs peuvent avoir une part de véracité. Dans ce
allez, on conclut.
Conclure en disant simplement qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'investissement. Moi, j'aimerais savoir si l'investissement aujourd'hui, c'est pas investir sur l'éducation nationale, parce que la génération future, c'est aussi ça l'avenir de notre pays.
Bon, je crois qu'on vous mettra d'accord là-dessus. Allez, quittons-nous là. Clément Viktorovitch, Isabelle de Gomain, Guillaume Perrault, merci d'avoir débattu ce soir. Dans 3-4 minutes, quel est votre signe avec Christine Haas et Laetitia Nallet ? Bonsoir, mesdames.
Bonsoir, Florence.
Bonsoir, Florence. Le standard est ouvert.
32-10.
Oui.
Nous vous attendons, comme d'habitude. Nous sommes prêtes.
Nous aussi, on vous attend. À tout à l'heure.